Franche culture.
La curiosité sous toutes ses coutures.
11h, 11h30,
un jeudi sur deux,
sur Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche culture. Au menu tous les 15 jours, l'actualité culturelle de l'Anjou et plus si affinité. Au micro, nous sommes 7, 7 à fouiller, fouiner, dégoter les perles culturelles de la région. Aujourd'hui, émission spéciale sur les NFT, certificats non fongibles, ces titres de propriété d'objets virtuels. Ils ont défrayé la chronique, vous l'avez peut-être entendu, avec des ventes records. La plus importante, celle de l'artiste Beeple, a atteint 69 millions de dollars en 2021. Et il se développe rapidement dans le marché de la création artistique. Pourquoi ? Comment ? Est-ce une bulle spéculative ? À l'avenir incertain, comme on l'entend souvent, ou un nouveau marché de l'art, une nouvelle façon de soutenir la création. On en parle aujourd'hui avec nos invités, Anaïs Bernard, maître de conférence en art plastique à l'Université catholique. Anaïs, bonjour.
Bonjour.
Gaspard Tertrais, donc vous êtes avec votre frère, le créateur de la plateforme Gaspard et Joseph, éditeur de NFT. Est-ce qu'on peut dire que vous avez créé une galerie d'art virtuelle pour vendre des NFT ?
Bonjour Cécile, oui, alors exactement. Donc moi je suis ingénieur informatique de formation et avec mon frère nous avons créé donc Gaspard et Joseph, l'éditeur NFT du patrimoine français, où nous éditons nous faisons des partenariats avec des artistes pour créer et vendre et mettre en vente des NFT donc de ces artistes. Et donc c'est exactement ça, une galerie d'art. Nous sélectionnons les œuvres, nous sélectionnons les artistes et nous proposons aux acheteurs les meilleurs contenus possibles.
Très bien, mais vous êtes bien placé donc pour nous décrire les avantages et peut-être les inconvénients des NFT. Et enfin, nous recevons Arnaud Gonzalez. Vous êtes musicien, un des piliers de la scène électronique angevine, et j'ai cru comprendre que vous gagniez votre vie grâce aux NFT.
Alors, pas forcément que avec les NFT, mais on va dire que c'est une source de revenus non négligeable, parce qu'il y a quelques années encore, la création, enfin la production musicale, ce que je crée en tant qu'artiste, était seulement une carte de visite. D'accord. Et depuis quelques mois, ça met du beurre dans les épinards, on va dire.
Très bien. Et avec moi aussi, pour animer cette émission, Bénédicte Justeau. Bénédicte, bonjour.
Bonjour Cécile.
Franche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Alors, pour parler de ce nouveau marché de l'art, il faut déjà comprendre ce que sont les NFT. Alors, NFT, ça veut dire non-fungible token en anglais, c'est-à-dire jeton non-fungible. Bon, quand on a dit ça, personne n'a rien compris. Alors, je me tourne vers Gaspard Tertrais. Expliquez-nous ce que c'est qu'un NFT.
Donc, un NFT, donc token non-fungible, il faut déjà comprendre ce qu'est la fongibilité. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une pièce d'un euro, je peux l'échanger contre une autre pièce d'un euro. Donc, c'est un actif fongible.
D'accord.
Par contre, une œuvre d'art comme la Joconde, je ne peux pas l'échanger contre un poster de la Joconde, ça n'a pas la même valeur. Donc c'est ça, c'est non fongible. Donc c'est exactement le même principe pour les tokens non fongibles. Donc c'est un certificat d'authenticité qui est stocké sur la blockchain et qui permet d'attester de l'authenticité d'une œuvre numérique.
D'accord, donc c'est un titre de propriété, on peut dire ça, pour une œuvre numérique.
Exactement.
Et vous dites que c'est stocké sur la blockchain, c'est quoi une blockchain ?
Alors, il faut voir la blockchain comme un réseau mondial et décentralisé un réseau mondial et décentralisé contrôlé par des centaines de milliers d'ordinateurs qui valident des transactions et qui possèdent chacun un registre de comptabilité qui est infalsifiable et distribué.
D'accord, donc on peut dire que c'est un réseau de stockage et de transmission d'informations entre adresse internet, adresse IP.
Exactement,
et infalsifiable. Ça peut être ça. Est-ce que ça fonctionne comme le système des crypto-monnaies ?
Alors, sur une blockchain, il peut y avoir des crypto-monnaies ou des NFT. Le premier cas d'usage, c'était le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. La blockchain Bitcoin ne comporte que le Bitcoin, donc les crypto-monnaies. Et il a fallu attendre l'apparition de la blockchain Ethereum pour avoir crypto-monnaie et NFT sur la blockchain.
Alors, il faut bien comprendre qu'il y a plus de 1000 blockchains. Hein. Ce n'est pas un système unique, hein. C'est un système très éparse dans le monde.
Alors,
À partir de quoi est-ce qu'on peut créer des NFT ? Qui veut prendre la parole ?
J'ai envie de dire de tout, en fait, maintenant. Enfin, au début, c'est vrai que c'était les NFT. Enfin, moi, je suis vraiment hermétique aux cryptos et tout ça. Moi, je suis là en tant qu'artiste. Voilà. Et on a vu d'abord dans le milieu de l'art, en fait, c'était un premier pas qui a été fait après les crypto-monnaies. On va dire plus, enfin, comme il l'expliquait, hein, pour des œuvres d'art qui peuvent être aussi bien animées que figées, qui se sont mis à apparaître. Après, je pense qu'au niveau de l'historique, tu seras plus précis que moi. Et moi, j'ai vu, pour mon cas, apparaître les NFT musicaux très récemment. Et c'est sous l'impulsion du patron de mon label qui m'a dit « Vas-y, il faut qu'on y aille. Il y a une plateforme française qui vient d'être créée, qui est un peu plus verte, on va dire, que les autres blockchains qui sont très énergivores, en fait. Oui. » Et du coup, c'est ce qui nous a décidé à y aller. La plateforme s'appelle Pianity. Donc après, je pense que... Le NFT, c'est vraiment le token, c'est un certificat. Donc, on peut appliquer un certificat, un titre, à n'importe quoi, en fait.
En fait, c'est un titre de propriété. Exactement. Donc, ça peut être une image, ça peut être un film, ça peut être un dessin, ça peut être un acte notarié. Enfin, aujourd'hui, on ne va parler que de culture.
Ça peut être un objet dans un jeu vidéo, un objet très rare dans un jeu vidéo. Et ça, c'est ce qui va arriver dans un futur très proche.
Ouais, ça peut être le coup de boule de Zidane aussi. Hein.
Ça peut être ça, mais voilà, mais il faut...
C'est vieux, hein. C'est pour la jeune génération.
Ça peut être
il y a des extraits de matchs de football qui ont été mis en NFT. Bon, aujourd'hui, on va parler quand même essentiellement d'Argan.
Non, je voulais juste rajouter que oui, effectivement, ça peut être un certificat sur tout, et y compris sur des objets physiques. Ça veut dire que ça peut remplacer les certificats pour des tableaux physiques, vraiment, pour pouvoir traquer un tableau, ses achats, ses reventes, tout au long de la vie de cette œuvre.
Donc, ce n'est pas que pour des objets numériques.
Exactement.
D'accord. En quoi c'est révolutionnaire ?
Alors, pour les artistes, par exemple, c'est révolutionnaire car... Par le passé, si vous faisiez par exemple une œuvre virtuelle ou une musique, par exemple, vous ne pouviez pas la vendre car cette musique sur Internet pouvait être copiée-collée, reproductible à l'infini. Alors qu'avec ce token non fongible qui est émis par l'artiste, vous pouvez être sûr, c'est comme une signature numérique en quelque sorte, vous pouvez être sûr que cette œuvre vient bien de cet artiste et donc que vous avez bien l'original en votre possession. Il y a aussi des droits de royalties qui sont gérés par la blockchain, c'est-à-dire que automatiquement à chaque revente ou à chaque achat, enfin à chaque revente, vous avez un pourcentage qui est défini par l'artiste qui est reversé directement à l'artiste, que ce soit maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc si l'artiste vend une œuvre à 100 euros avec 10% de royalties demain et que dans 10 ans elle vaut 10 000 euros, la première fois vous gagnez 10 euros, la deuxième fois vous en avez pour 100 euros déjà, quoi.
C'est vraiment l'inscription de manière indélébile dans la blockchain et suivre les propriétaires à chaque fois, tout est inscrit, tout va rester figé là-dedans. Et moi ça me permet, par exemple, j'ai un morceau qui sort sur Spotify, Deezer, que tout le monde peut écouter, mais j'ai décidé aussi d'en faire un NFT.
Oui.
Et ça, alors il y a beaucoup de gens qui confondent un peu tout. Ils se disent, mais pourquoi je vais acheter le NFT qui va avoir une valeur pas possible alors que je peux l'écouter, le morceau, sur Deezer. C'est vraiment la possession du certificat du NFT, que c'est un peu comme des collectionneurs. Je compare souvent ça, moi, par rapport aux cartes Pokémon ou des choses comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir exactement la même carte à deux coins de la planète.
Ouais.
L'une n'aura aucune valeur parce qu'elle est un peu, elle a vécu, elle est un peu écornée. L'autre, c'est une carte rare parce qu'elle a un petit défaut, mais elle a été ce qu'on appelle dans un état mint, c'est-à-dire qu'elle a été protégée sous plastique, elle est en état parfait. Et c'est cette carte-là qui va avoir de la valeur parce qu'elle est très rare, parce qu'elle est unique, parce qu'il y a un numéro de série qui est différent, etc.
Oui, mais quand même, c'est différent parce que là, vous avez un objet qui va être unique, qui va être parfait. Or, moi, effectivement, une image, un petit singe, on en parlera après quand on fera l'histoire.
Alors, ça,
un
c'est
petit
différent
singe,
encore.
Ouais, machin, que tout le monde peut avoir en copie, sûr. Pourquoi je vais l'acheter très cher ?
Parce qu'il n'y en a qu'un seul de ce type-là.
Mais c'est reproductible à l'infini.
Non. Enfin, pas le NFT.
Pas le NFT,
voilà.
Mais Gaspard.
Donc, si vous avez, par exemple, une œuvre d'art chez vous, peut-être que cette œuvre d'art est consultable de façon limitée sur Internet. C'est-à-dire que vous avez des photos de cette œuvre d'art, mais ce n'est pas votre propriété, quoi. vous avez la propriété physique, mais vous n'avez pas la propriété de... Bah, de enfin, tout le monde peut l'avoir, en quelque sorte.
Ah non, ce n'est pas la même chose. Un tableau...
C'est la même chose, mais sur Internet.
C'est comme avoir le poster de la Joconde et la Joconde.
Voilà, c'est pas pareil. Exactement. Anaïs Bernard, vous voulez intervenir?
En fait, l'exemple au niveau de l'œuvre d'art qui me vient le plus facilement en tête, c'est dans le cas de la photographie, où en fait on a la pellicule, où on a l'objet numérique, et du coup qui est reproductible en fait à l'infini. Pour autant, ce qui va être considéré comme œuvre authentique, dans le cas d'une photographie, c'est les 30 tirages numérotés et signés par l'artiste.
Très juste.
On est exactement en fait sur le même principe, c'est-à-dire que le NFT, ça va être l'image qui est associée à cet NFT, qui a cette valeur.
En fait, c'est comme les preuves d'artiste, effectivement, en photo.
Exactement.
C'est ça que vous voulez dire.
Tout à fait.
Ok.
C'est un très bon exemple.
Ouais.
Voilà, oui, bah, on reste dans
l'art
comme
ça. Parce qu'on essaye de trouver tout le temps des exemples.
C'est ça, parlons photo.
Alors,
on va faire un petit résumé historique quand même, parce que les NFT, on en parle beaucoup depuis 2 ans, mais c'est malgré tout très récent. Le premier NFT identifié, connu, c'est en 2014. Il s'appelle Quantum et c'est une petite vidéo qui a été créée par une femme qui s'appelle Jennifer McCoy. Elle est américaine, pardon. Elle l'a enregistré sur la blockchain Namecoin et elle l'a vendu à l'époque 4$. C'était pas cher le NFT à l'époque. À un certain Anil Dash, qui est un ami de son mari, et ça s'est fait en public, une conférence dans un grand musée new-yorkais. Le terme NFT n'existe pas à ce moment-là. On parle d'images monétisées. Donc voilà, c'est ce qui revient un petit peu au même, ceci dit. C'est en 2015 que le premier projet de NFT Etheria a été lancé, si j'ai bien compris, par la blockchain Ethereum. Et ensuite, calme plat, racontez-moi ce qui s'est passé après et ce qu'on a vu.
Alors, le NFT est resté un peu dans les greniers en fait, des développeurs et des ingénieurs. Ça n'a pas été très connu. Il a fallu, comme vous dites, jusqu'en 2021 pour que déjà le terme NFT soit inventé. Fin 2020, début 2021, ça a été assez répandu. Et il y a eu des collections comme les CryptoPunks, qui pareil ont été créées assez...
Oui, qu'est-ce que c'est les CryptoPunks ?
Les CryptoPunks, c'est une collection de 10 000 NFT autogénérés, donc générés par algorithme. Donc c'est des petits personnages qui ont tous des attributs différents, des cheveux verts, il y en a un qui a des cheveux verts, une moustache, il y en a un autre qui a des lunettes, une barbe. Et tous ces NFT, en fait, donc il y en a 10 000, il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins. Et quand vous en possédez un, vous faites maintenant partie d'un espèce de club assez privé, c'est-à-dire qu'on vous partage des informations sur les prochaines collections de NFT avec des gens qui sont très célèbres, qui possèdent ces NFT, qui partagent à cette communauté d'acheteurs, en fait, beaucoup de bons plans. C'est pour ça que les NFT ont pris énormément de valeur. Donc ce qui a été donné gratuitement, parce que CryptoPunk ont été donnés gratuitement en 2016 ou 2017, maintenant vaut minimum 200 000 $ le NFT.
Là, vous avez parlé d'un phénomène, effectivement, parce qu'on se pose toujours la question, quel est l'intérêt du NFT, hein. Je pense que tous les gens qui ne connaissent pas les NFT se posent la question. Vous parlez de la collection. Il y a un côté collectionneur, c'est ça, chez les possesseurs de NFT ou certains oui. possesseurs de NFT.
Oui, exactement. Bah, comme dans la collection classique physique, les gens aiment bien posséder une figurine de Star Wars, une figurine, si vous êtes fan de Star Wars, Marvel, ce que vous voulez. C'est pareil sur Internet, c'est-à-dire que c'est des figurines, par exemple, virtuelles, des tableaux virtuels, ce que vous voulez, qui pourront être ensuite mis dans des jeux vidéo, par exemple. C'est-à-dire que vous pourrez vous balader comme Dark Vador avec votre figurine de Dark Vador dans des jeux vidéo et vous serez un des seuls à pouvoir le faire parce que vous êtes le seul à avoir cette propriété.
D'accord. Anaïs Bernard, vous avez parlé, quand on a préparé cette émission, des NFT comme d'une arme culturelle ou un marché capable de réagir très très vite. Est-ce que vous pouvez nous en parler et des derniers éléments récents sur l'utilisation des NFT, je dirais, pour des causes humanitaires?
Eh ben, on va partir sur un exemple en fait, qui fait écho à l'actualité, puisqu'on en a entendu et que ça a fait grand bruit la semaine dernière, enfin depuis à peu près 15 jours. C'est par exemple le partenariat entre Madonna et Beeple, en l'occurrence, qu'on a collaboré ensemble pour faire un triptyque de NFT, du coup. Donc le but, c'est la mère création. Donc c'est 3 vidéos. Il y a la mère de la nature, la mère de l'évolution et la mère de la technologie. Donc un triptyque vraiment, où l'idée c'est de donner naissance à la mère création, donc ça leur a demandé un an de travail. Ça a été mis en vente du coup depuis le 11 mai. Et les bénéfices, du coup, vont être redistribués à 3 organisations à but donc non lucratif, axées notamment sur le soutien aux femmes et aux enfants du monde entier. Donc ça, c'est un bon exemple. On en a beaucoup entendu aux informations. Alors, pas pour la bonne raison, je trouve. C'était plutôt la polémique de Madonna, comme d'habitude.
La polémique sur les attitudes de Madonna.
Exactement, qui est dans des positions, en effet, elle accouche, quoi, dans tous les sens du terme. Un coup de petit mille-pattes technologique, un coup d'un arbre ou encore de papillon.
Ouais.
Mais par contre, ce qui n'a pas été diffusé dans les médias, c'est au contraire ce but lucratif, les fonds que ça va générer qui vont être distribués du coup tout simplement à des organisations, aux femmes et aux enfants en fait, du monde entier. Ouais. Et je trouve que la cause, elle est là, elle est importante du coup, et ça permet en quelques heures, puisqu'en là, en fait, ça s'est envolé en l'espace de 24 heures, de générer des fonds et de pouvoir du coup les distribuer à des bénéficiaires qui en ont besoin.
Est-ce qu'on peut dire justement par rapport à ça que c'est comme une arme culturelle de mobilisation massive? Ça interpelle le monde entier.
Mais totalement. Enfin, je pense que ça a toujours été un des buts de l'art. C'était justement de véhiculer un message de... Enfin, de toute manière, on le voit d'un point de vue politique. Hein, les artistes sont quand même relativement traqués dès qu'il y a une dictature qui est mise en place. Donc l'art permet de véhiculer des messages. Là, on est face justement... Enfin, on a aussi le cas de l'Ukraine avec JR qui a également dévoilé du coup un gigantesque cliché dans le centre-ville de Lviv qui a créé deux NFT, en l'occurrence un la révélation du coup de ce cliché et un du coup du cliché à proprement parler, qui permettait du coup également de générer des fonds pour faire un pont et apporter de la nourriture du coup en Ukraine, etc. Et là, c'est pareil, on est sur des sommes qui sont assez astronomiques. Il a mis ça en place le 17 mars. Et du coup, ça permet de générer des fonds nécessaires pour apporter la nourriture aux personnes qui étaient en train de se déplacer par rapport à la guerre.
Et il y a eu une levée de fonds massive et extrêmement rapide. On va faire une petite pause musicale avec une œuvre achetable ou achetée en NFT, je ne sais pas. C'est Wasting My Time.
Ah, celui-là, non, il n'est pas en NFT.
Il n'est pas en
NFT. Mais vous pouvez l'écouter sur Spotify.
Bah, écoutez, chers auditeurs, si ça vous plaît, appelez Arnaud, il est encore achetable alors.
Non, celui-là, on peut l'écouter gratuitement, il n'y a pas de problème. Mais tous, hein, même ceux qui sortent en NFT.
On passe à la pause musicale, donc Wasting My Time. Yeah. vous laisse présenter le titre parce que j'ai pas donné le bon titre de musique.
C'est pas grave, le morceau s'appelle The Delivery Boy et c'est sorti sur mon album du même nom, qui est sorti à deuxième album, qui est sorti il y a 4 ans maintenant, je crois. Entre temps, il y a eu beaucoup d'autres sorties, mais pas d'autres albums, que des petits EP depuis.
Que des petits EP, alors voilà. Parlez-nous de ce morceau.
Ce morceau, il y a un truc intéressant qui est marrant, c'est qu'il y a un clip qui a été fait à Angers. Et le rôle titre de ce clip-là, c'est un rappeur angevin qui s'appelle Pepso et qui maintenant sort beaucoup de choses sous le nom de Stav et qui a eu un autre projet qui s'appelle Stavinsky. Et voilà, il joue le rôle d'un livreur de pizza. Enfin, on ne sait pas trop s'il livre des pizzas, en fait, dans le clip.
Merci beaucoup. Bon, je rappelle que vous êtes toujours sur Radio Campus. Nous continuons donc notre émission sur les NFT avec nos invités. Anaïs Bernard, maître de conférence en arts plastiques à l'Université catholique. Gaspard Tertrais, un des créateurs de la plateforme Gaspard et Joseph et éditeur de NFT. Et Arnaud Gonzalez, que vous venez d'entendre, donc musicien, pilier de la scène électronique angevine et qui vend certaines de ses compositions sous forme de NFT. Alors, les NFT, effectivement, c'est toujours la question que les béotiens se posent. Quel intérêt, à quoi ça sert? Rapidement, parce qu'on en a parlé déjà à plusieurs reprises, pourquoi, dites-moi tous quelque chose qui me convaincrait d'acheter un NFT.
Moi, je vais commencer. Si vous achetez un NFT, vous donnez, entre guillemets, des fonds directement à l'artiste. Déjà, ça, au niveau du numérique, à l'heure actuelle, c'est un élément fondateur parce que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, les artistes touchent une somme, mais vraiment infime, des revenus, à tel point que certaines personnes qui gagnaient leur vie uniquement en produisant de la musique sans aller sur scène, en fait, ces personnes-là ne peuvent plus vivre de leur musique. Maintenant, en fait, moi j'ai toujours considéré que c'était une carte de visite, ma musique, dans le numérique, et que ça me permettait de toucher de plus en plus de gens pour tourner après dans les festivals et qu'on me demande sur scène. Et c'est sur scène que j'ai toujours gagné ma vie. Et là, depuis un certain temps, grâce aux NFT, j'arrive à avoir des petites rentrées d'argent que je n'avais plus, en fait. Et j'ai découvert une communauté dans les NFT musicaux. Je pensais que c'était que des gens qui venaient spéculer, en fait, et pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que c'est d'autres artistes qui achètent mes œuvres. Moi, j'achète des œuvres d'autres artistes. Et aussi, j'ai découvert une communauté vraiment de gens qui sont presque... C'est presque du mécénat, en fait. Ils se disent, tiens, je soutiens cet artiste parce que je crois en lui. Et je me dis qu'en achetant son NFT, dans quelques années, ça se trouve, je le revendrai plus cher. Alors, il y a un peu ce côté, un peu spéculation.
Il y a quand même de la spéculation, toujours.
Il y a un
peu
de spéculation, mais aussi, là, on en a parlé tout à l'heure, la collectionnite, en fait. Oui. De se dire, tiens, cet artiste-là, je l'adore. Je voudrais avoir la collection complète de tout ce qu'il a sorti en NFT ou dans tel genre musical. Vraiment, il y a tout ce truc-là qui est très intéressant au final.
Anaïs Bernard, qu'est-ce que vous diriez, vous, pour défendre l'achat de NFT?
Pour défendre, ça va rejoindre ce qui vient d'être dit, en fait. C'est tout simplement, on rentre dans une communauté. On a l'avantage aussi, directement par rapport à l'artiste, également, c'est qu'il puisse être rémunéré, en fait, tout simplement. Et on rentre aussi sur ce questionnement, en fait, du collectionneur, en fait. Qu'est-ce qu'un collectionneur? Pourquoi on a envie de posséder soudainement cet NFT-là, comme on a envie de posséder finalement une œuvre d'art? Donc, au-delà du côté spéculatif, il y a aussi le côté peut-être plus esthétique, plutôt le côté de la rareté aussi également, qu'on a envie de dénicher, etc.
Gaspard, vous qui en vendez justement.
Alors, côté artistique, déjà, si vous ouvrez un marché mondial, dites tout de suite, parce que si vous voulez acheter un tableau qui est au Japon, il faut aller le voir, faut le faire envoyer, tout ça. Là, vous pouvez acheter un NFT à un japonais et l'acheter directement depuis votre ordinateur, donc avoir une œuvre d'art d'un artiste à l'autre bout du monde beaucoup plus facilement, par exemple. Et vous avez aussi, donc je suis d'accord avec Anaïs et Arnaud complètement sur ces avantages, les avantages décrits. Mais il y a aussi d'autres cas d'usage sur les NFT, qui sont par exemple la billetterie. La billetterie, c'est quelque chose qui va être très très utilisé, je pense, dans quelques années. On a tous vu ce qui s'est passé samedi dernier avec la Ligue des Champions, où il y a eu énormément de faux billets vendus. Avec les NFT et la blockchain, ça permettrait d'avoir des billets complètement infalsifiables et impossibles à répliquer. Donc avec la blockchain et les NFT, vous pouvez régler ce genre de problème, par exemple.
Alors, j'ai une question, moi, par rapport à l'obsolescence des NFT. Je ne sais pas trop comment poser la question, mais technologiquement parlant, est-ce que, comme par exemple un disque vinyle ou une œuvre d'art, est-ce que ça va vieillir dans le temps, dans 10 ans, dans 50 ans? Est-ce qu'un NFT aujourd'hui sera toujours le même dans 50 ans?
Et oui, parce que nos cassettes vidéo, on ne peut plus les regarder.
C'est comme, j'ai envie de vous dire, tout ce qui est stocké sur des serveurs peuvent un jour... Tout ce qui est stocké sur des serveurs autour du monde, sur Internet, peut disparaître un jour. Tandis qu'avec la blockchain, bah, on contourne ça.
Et bien peut-être que les systèmes technologiques d'ordinateurs seront totalement différents et que en fait, tout ce qui est sur la blockchain disparaîtra. Vous en pensez quoi?
Alors, c'est... En fait, la blockchain... Ethereum, Bitcoin et beaucoup d'autres blockchains sont conçus de telle sorte à ce que il faut qu'il y ait au moins un ordinateur qui utilise cette blockchain pour continuer à vivre. Donc tant que la blockchain est utilisée, les œuvres, les NFT resteront sur Internet, sauf si Internet s'arrête. Mais bon, si Internet s'arrête, je pense qu'on aura d'autres problèmes que de savoir si on a notre œuvre d'art qui est toujours là ou pas. Et vous avez aussi, donc effectivement, les technologies de la blockchain actuelle seront dans 10 ans peut-être obsolètes, on n'en sait rien, mais il y a des bridges, des ponts qui peuvent se faire entre les blockchains. Il y a notamment des protocoles comme Polkadot qui sont en train de se développer, qui permettront de migrer en fait tous vos NFT sur une blockchain plus neuve, plus récente, plus écologique peut-être, je ne sais pas.
Justement, l'écologie, Bénédicte a une question là-dessus.
Oui. Il y a déjà des blockchains qui sont plus écologiques bien que sûr. D'autres. Je ne connais pas les noms de chaque blockchain, hein, mais je sais que la blockchain qui est utilisée par Pianity est 1000 fois moins polluante que celle du Bitcoin. Donc vous voyez déjà l'évolution, le gap qu'il y a eu en très peu de temps. Donc, et c'est pour ça que sur un site comme Pianity, qui est dédié aux NFT musicaux, un artiste qui veut... éditer un NFT ne va pas payer, tandis que sur des sites américains, vous êtes obligé de payer une taxe carbone carrément. Donc en fait, vous, en tant qu'artiste, vous devez déjà payer pour créer votre NFT. Là, c'est d'autres choses. Ils ont plus mis en place des choses qui sont plus liées à la communauté, où c'est la communauté qui va voter dans une top list quel morceau va pouvoir accéder, enfin va pouvoir devenir un NFT. Donc déjà, on est soumis à un sas d'attente, on va dire. Ou pour que ça soit qualitatif et qu'il n'y en ait pas, sinon il y aurait 20 000 nouveaux NFT par jour. Et qu'est-ce qui se passe si c'est ce cas-là? Ça se noie et on revient au même problème qu'on a sur toutes les plateformes numériques où il y a des centaines de milliers de morceaux qui déboulent et on ne sait même plus, on nage dans un océan de musique, quoi. On ne sait plus quoi écouter, quoi.
Justement, j'ai lu que le chercheur Andrew Ellis à l'université de Birmingham avait prédit en 2015 un engorgement d'Internet d'ici à 2023. C'est demain, hein, 2023. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de la soutenabilité de ce secteur sur le long terme? Parce que c'est d'après ce que je comprends, c'est des copies.
Moi, je pense que justement, cet environnement-là du NFT tend à créer la rareté, justement, plus qu'à créer la surabondance de morceaux. Moi, qui suis DJ aussi... Pour choisir des morceaux, j'avais un bac de vinyle avec des nouveautés, il y en avait quelques-unes dedans. Maintenant, on nage dans l'inconnu sur Internet. Il y a tellement de choses que, en fait, ça dévalorise la musique au final. Le fait qu'il y en ait trop. Tout le monde peut sortir un morceau comme ça. Demain, j'ai envie de sortir quelque chose, je le sors, pouf, ça arrive sur les plateformes. Et il n'y aura pas de filtre, en fait. Et du coup, ça a créé une surabondance de morceaux musicaux, mais pas forcément un upgrade de la qualité, on va dire. Dans l'eau, oui, comme il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui vont ressortir, qui vont être de meilleure qualité, mais d'un autre côté, il y a énormément d'artistes qui ne sont pas visibles, en fait, tout simplement.
Qui ne sont pas visibles, mais vous parliez de blockchains qui sont un peu plus écologiques, mais il y a quand même plus de 1000 blockchains et il y en aura d'autres. Donc l'écologie, à mon avis, est quand même encore loin. Je voudrais qu'Anaïs...
Oui, mais ça va dans le bon sens. Oui. Enfin, c'est ce que je veux dire par là.
Anaïs, vous êtes maître de conférence, donc je le disais, en art plastique à l'UCO. Vous avez des étudiants qui sont jeunes, qui ont été biberonnés dans le monde d'Internet et des réseaux sociaux. Quel regard porte-t-il, pour conclure cette émission, donc quel regard porte-t-il sur ce monde virtuel et sur les NFT? Racontez-nous ce qu'ils vous en disent.
Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'en effet... Alors, moi, j'ai une trentaine d'années. Mes étudiants, ils ont entre 18 et 24 ans. Donc, ils sont vraiment la génération tout Internet, tout écran, enfin... Et pour autant, ils n'en ont pas du tout la même utilité que nous, c'est-à-dire qu'ils sont très YouTube, ils sont très réseaux sociaux avec plutôt Instagram, etc. Mais ils n'ont pas cette curiosité finalement et cette ouverture, je trouve, que nous, on a pu connaître du coup en voyant émerger, parce que ce n'est pas si vieux que ça, hein, Internet, en voyant émerger Internet et du coup le fait qu'on a connu aussi une heure d'Internet par mois. Donc en fait, on a une utilité, je dirais, sur la trentaine, je dirais, différente par rapport aux étudiants qui en ont une vingtaine aujourd'hui. Et du coup, les NFT, ils sont assez partagés, en fait. Ils ont un peu l'impression, comme la réalité virtuelle ou les réalités augmentées, que c'est quelque chose, en fait, qui ne leur est pas accessible, étrangement. Donc, ils s'y intéressent relativement peu, ou à travers, en tout cas, les buzz qu'ils en entendent parler à travers les réseaux sociaux. Donc, je dirais plutôt un retour assez critique de ce que j'ai pu entendre, hein, évidemment. Mais je pense que c'est quelque chose qui va, pareil, se développer, se populariser également. Et là, on en est aux prémices, hein, c'est-à-dire que ça a explosé en 2021, les NFT. On a à peine en 2022, donc je pense qu'il y a, encore beaucoup à faire et à populariser sur cette question-là.
Oui, on s'attendait à ce que les NFT soient effectivement très connus chez vos étudiants et ils ne s'y intéressent pas. Mais oui, vous m'avez dit qu'il y a quand même des exemples de buzz idiots sur les réseaux qui les dégoûtent un petit peu finalement des réseaux.
Ben, complètement en fait. C'est comment on va investir dans une voiture, fracasser la voiture et peindre et vendre les pièces détachées de la voiture du coup en NFT, pour générer finalement 10 fois le prix de la voiture. Voilà, donc on va dire que ce n'est pas spécialement les meilleurs exemples qu'on connaît.
Très rapidement, parce qu'on va devoir terminer cette émission. Gaspard Arnaud, est-ce que vous voulez dire un petit mot, une petite chose pour conclure ?
Alors, je voulais juste revenir très vite fait sur la question écologique. C'est vrai, il y a 1000 blockchains. Il y a 1000 blockchains en ce moment. Bon, le Bitcoin, ça consomme beaucoup, même si, bon, je ne peux pas entrer dans la technique, mais ce n'est pas toujours vrai tout ce qu'on dit là-dessus. Mais vous avez des blockchains qui se développent. Nous, ce qu'on utilise, c'est ImmutableX. Donc, c'est une surcouche sur la blockchain Ethereum qui est 99,99 fois moins consommatrice que la blockchain Ethereum.
D'accord, donc on est en progrès sur l'écologie.
On est en progrès sur l'écologie et on est au début d'une technologie et les gens qui n'utiliseront pas une blockchain qui consomment dans le futur pour des questions écologiques, ils préféreront des blockchains plus vertes.
Quoi. Plus propres.
Moi, je pense que c'est après au... Le NFT, c'est tellement vaste, c'est comme si on disait Internet, quoi, en fait.
Oui, c'est ça.
Donc, il y a des utilisations qui vont être déplorables. Il y a des utilisations qui vont être très saines. Et voilà, faut voir le verre à moitié plein et voir ce qu'on peut faire avec ce verre à moitié plein. C'est surtout ça, quoi. Plutôt que toujours taper sur tout le monde. Moi, le premier, hein, quand j'ai commencé à dire attention, je mets un NFT, etc., je me suis fait tailler sur les réseaux sociaux. Mais par des gens qui n'y connaissaient rien. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter.
Merci en tout cas, le sujet est tellement vaste qu'on pourra tous vous réinviter. C'est la fin de ce Franche Culture. Merci à nos invités, je rappelle Anaïs Bernard, maître de conférence en art plastique à l'Université catholique, Gaspard Tertré, donc créateur de la plateforme Gaspard et Joseph, et Arnaud Gonzalez, musicien. Merci chers auditeurs de Radio Campus de votre écoute. Retrouvez-nous pour la rediffusion de l'émission mardi prochain à 19h. Et surtout, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à partager notre podcast et à nous liker sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.